Bonjour chers amis, je voudrais saluer également Monsieur Hicham Bukar qui est le vice-consul du Maroc. Merci d'être venu et bienvenue. Nous sommes réunis ce soir pour découvrir le nouvel opus de notre ami Hubert Seyon, avocat à la Cour d'appel de Paris et auteur de plusieurs ouvrages. Ce livre-ci, le voici, est le second sur le thème du Sahara marocain. Il faut savoir que sur le sujet, Hubert Seyon a également été observateur pour les droits de l'homme dans le cadre des Nations Unies. Il est également le président de la Fondation France-Maroc, créée à Laâyoune en 2017, dont la vocation est de réunir des entreprises françaises et marocaines pour lancer des projets d'investissement collectifs et communs dans l'intérêt de la région et dans un esprit de partenariat nord-sud, mais également sud-sud. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis pour autre chose. La sortie de ce livre, Le Sahara marocain, l'espace et le temps. Replaçons-nous dans le contexte. Hubert Seyon est un témoin privilégié des évolutions au fil du temps sur le conflit qui agite toujours cette partie du Sahara. Auditionné ces jours derniers à New York, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le sujet, l'auteur a confié « Je ne fais que témoigner de ce que j'observe sur le terrain et forcé de constater que le Maroc fait tous les efforts nécessaires au développement de ce territoire et de sa population. » L'avocat a également témoigné de la scolarisation très élevée des enfants et des adolescents, de l'existence de nombreux services publics, sanitaires, sportifs, culturels et cultuels. Il a témoigné du développement dynamique de l'économie des territoires, avec les nombreuses entreprises dirigées par des Sahraouis et la place importante qui est aujourd'hui accordée aux femmes. Ces constats sont traduits par un indice de développement humain qui est supérieur à la moyenne nationale du Maroc. Enfin, l'actualité immédiate ne donne pas tort à Hubert Seyon, avec le démarrage des travaux de construction du port stratégique atlantique d'Akhla, dont les premières pierres seront posées au deuxième trimestre de 2020. C'est un mégaport et il est destiné à valoriser l'activité économique liée à la pêche maritime, qui est l'autre point fort des provinces du Sud. Aujourd'hui, ce nouveau livre est aussi un témoignage, mais sous le signe de l'espace et du temps, du grand espace et du grand temps. Et pour cela, il faut revenir en arrière, explorer le passé, le présent et l'avenir de ces territoires. C'est ce qu'a tenté de faire dans ce livre Hubert Seyon. L'objectif de cet opus est de dessiner l'avenir de ce territoire marocain, encore qualifié de Sahara occidental, nous mettons nous, Marocains, des guillemets, aussi bien sur le plan international que dans les discussions internationales. C'est un fait. La marocanité de cette partie ouest du Sahara n'est donc pas fixée, hélas, sur le plan du droit international. Aujourd'hui, le sujet n'est toutefois plus militaire, mais diplomatique. Hubert dit d'ailleurs « il n'y a plus de combattants et le conflit est d'ordre exclusivement juridique ». Il nous précisera cela bien mieux que moi tout à l'heure. Mais nous, nous connaissons bien sûr, et vous j'imagine également, tous les enjeux de ce conflit déjà vieux d'un demi-siècle au Sahara marocain. Pour mémoire, il faut se souvenir de la fameuse marche verte initiée en 1975 par le roi Hassan II vers Terfaya jusqu'à la ville de Laâyoune. Cette marche pacifique qui a réuni 350 000 Marocains a terminé son périple en faisant hisser le 28 février 1976 le drapeau marocain dans la ville de Laâyoune, annonçant ainsi la fin de la présence coloniale espagnole dans le désert marocain. Depuis, le conflit entre le Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui, soutenu par l'Algérie et la Libye, s'éternise avec le Maroc et n'a jamais trouvé, hélas, de solution définitive. Au Maroc, il s'agit d'une cause nationale décisive pour le pays, également sur le plan géopolitique. Nous savons que le roi du Maroc, Mohamed VI, exerce une influence déterminante en Europe ainsi que dans les pays du Sud et plus particulièrement les pays africains. Hubert se permet, parlant de Sa Majesté, de dire que c'est un fabuleux joueur d'échecs. C'est bien ce que vous m'avez dit hier. Et donc, personne, hélas, ne devrait s'attendre à un résultat rapide, car de nombreuses positions divergent toujours fondamentalement. Le Polisario réclame un référendum d'autodétermination pour le Sahara occidental, cette étendue désertique qui mesure quand même 266 000 km², dans une région qui est riche en phosphate et bordée d'eau poissonneuse. Le Maroc a répété à maintes reprises que son pays était prêt à discuter d'autonomie, mais que sous aucune circonstance il n'acceptera un référendum dans lequel l'une des options serait l'indépendance. Le Polisario appelle l'ONU à statuer. Alors, j'aimerais vous lire un petit passage, si vous permettez, du livre d'Hubert, justement, qui parle en quelques lignes. Et ensuite, je lui donnerai la parole pour qu'il nous parle de ce beau territoire. L'autonomie avancée n'est enfin pas seulement un dispositif juridique, mais un vecteur de développement pour les provinces du Sud. En dynamisant la participation de la population locale, les Sahraouis, aux institutions représentatives et en l'intégrant dans les processus de décision, elle la responsabilise. Sans doute que sans ce vecteur de développement, l'action de l'État n'aurait pas été teintée d'autant d'efficacité. Les missions de l'État et des institutions régionales sont complémentaires. Et c'est leur juste coordination qui apporte de la performance aux investissements financiers et humains. Cette attitude démocratique et progressiste du Maroc, étant en passe de s'imposer sur le plan international, le Polisario est sans argument. Il sait qu'il n'a plus que l'arme juridique, ce qui le conduit à multiplier les démarches judiciaires hostiles. C'est pourquoi il profite des faiblesses du droit international pour demander des saisies de cargaisons, de navires mouillant dans des eaux territoriales, des pays amis, ou encore pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Ces requêtes judiciaires ne peuvent surprendre car on ne peut attendre d'un cadre législatif aussi hésitant des décisions de justice impartiales et justes. Et je sais qu'Hubert a beaucoup à cœur de vous expliquer ce qu'est justement la différence entre le petit droit et le grand droit. Oh là. Je vous en prie, la parole est à vous.
Oh là là. Après cet exposé tout à fait exceptionnel pour ses qualités de clarté, et puis pour le choix des mots et le choix du texte, que j'avais indiscutablement oublié. C'est un effet essentiel, ce que vous avez cité, car ce territoire, aujourd'hui, j'ai pu le qualifier aussi, et dans un chapitre, je crois le chapitre terminal, d'une nouvelle Californie. C'est bien un peu cela... Cette évolution, vous avez tous, vous voyez sans arrêt des photos à la télévision du Sahara. Que voyez-vous ? De la guerre, vous voyez du désert. Là-bas, nous voyons de l'eau, nous voyons des villes, nous voyons des routes, nous voyons des ports. On n'a plus le sentiment d'être au désert, dans un désert. C'est ça qui est tout à fait exceptionnel. Et il est bien vrai qu'il y a eu une chance formidable pour ce Sahara. Cette chance, ce fut l'Algérie. Ce fut l'Algérie et puis le Polisario. Parce que, comme ils ont fait la guerre au Maroc, il a fallu mettre un peu d'ordre. Les Nations Unies sont installées comme grand témoin. On a fait un mur. Ça coûte cher au Maroc, c'est vrai. Mais c'est la paix la plus totale sur ce territoire de près de 300 000 kilomètres carrés. Voilà. C'est la paix la plus totale et on peut aller depuis Dunkerque jusqu'à Dakar en suivant la côte sans avoir d'autres difficultés que le temps qui passe. Voilà, il y a une route, c'est formidable. Alors, évidemment, vous me voyez répondre sur le ton un peu léger, le plus léger possible. En vérité, le sujet est quand même grave. Le sujet est grave parce que c'est quand même extraordinaire de voir qu'en 2020, 45 ans après la marche verte, donc, nous avons encore une contestation qui relève d'un passé qu'on croyait fini, c'est-à-dire l'opposition frontale des blocs Est-Ouest du monde communiste et tiers-mondiste, avec le bassisme de Nasser et puis de l'Irak, c'est ce socialisme arabe, qui n'avait qu'une vision, c'était démontrer que l'Occident était le mal absolu déjà, rien à, voilà, l'Occident. Alors l'Occident, le Maroc s'y était rangé d'entrée dès 1956. Il était l'allié des États-Unis, et puis nous savons que les rapports avec la France, même si la fin du protectorat n'est pas tout à fait à notre honneur. Je parle de la fin du protectorat parce que c'était un protectorat, ce n'était pas une colonie. Même si ce fut assez difficile à partir de après 45, il ne faut pas oublier quand même que Mohamed V, dont nous avons ici d'ailleurs, je ne le dis pas dans mon livre, mais le 3 septembre dernier, à la faculté de droit, j'ai organisé un hommage à Mohamed V pour l'appel qu'il fit en 39, le 3 septembre 39, jour de la déclaration de guerre à l'Allemagne nazie. Il avait placé son peuple aux côtés de la France dans un message formidable d'amitié pour la France et les Français. Et donc on a fait cet hommage à la faculté de droit, certains d'entre vous y étaient peut-être. Je voulais dire par là que s'il y a eu un tel hommage du sultan, c'est que ce n'était pas tout à fait un domestique, ce n'était pas un colonisé. C'est qu'il y avait quand même autre chose dans le rapport France-Maroc que le rapport de la France avec l'Algérie, qui était constitué de départements. Il y avait une souveraineté marocaine malgré le protectorat. C'est ça aussi, le Maroc. Ce qui explique qu'avec le Maroc, il y ait aujourd'hui des liens étrangement amicaux, fraternels, me disent mes amis, n'est-ce pas, monsieur le consul ? Et oui, non, mais c'est vrai, nous sommes dans ce champ des sentiments. Nous ne sommes pas dans les sentiments à caractère diplomatique, on est tous amis. Non, non, là, il y a vraiment une fraternité qui s'exprime toutes les fois que l'on est au Maroc. Alors, évidemment, aujourd'hui, le Maroc, c'est aussi un grand pays de tourisme, et ce n'est pas dans ces rapports-là que je situe ce que je dis. Voilà, parce qu'on apprend qu'à Marrakech, il va devenir difficile de vivre bientôt. J'ai vu ça récemment dans la presse, compte tenu du monde qui envahit cette ville. Voilà. Alors, il faut le voir, le Maroc, autrement que par les relations de tourisme que nous pouvons envisager. Ce Maroc, si vous voulez, qui fait l'objet de ce livre, par le Sahara, il faut le comprendre. Il n'y a pas le Sahara et le Maroc, comme il n'y a pas une Aquitaine et la France. Le Sahara est marocain, le Maroc est saharien. C'est comme ça. On n'y peut rien. Et pourquoi puis-je dire cela ? Je peux dire cela simplement parce que je suis allé voir sur le terrain, évidemment. Si, il faut toujours voir le terrain, mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur des textes anciens, des ouvrages. Il y a une grosse bibliographie. Les citations sont légères. Il faut que le livre est petit, il fait moins de 200 pages. Il fallait que ce soit léger, il ne faut pas que ce soit un livre de professeur, il faut que ce soit un livre facile à lire, je dirais presque. Moi, c'est comme ça que j'aime les livres. On lit ça en aller-retour Paris en train, voilà. Et c'est comme ça qu'il faut voir quelque chose qui, si vous voulez, où les idées sont présentes, on y va, quand on revient, on a quelques idées, voilà, on a quelques informations, mais aussi des idées. Un livre sans idées, j'en connais beaucoup. On en lit, ils sont souvent très épais, et on se dit, quand on a fini, souvent, ça arrive. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Et c'est ça. Alors moi, j'ai fait le contraire, j'ai fait très court, parce que j'ai voulu distiller tous ces témoignages que j'ai enregistrés et en même temps toutes ces lectures que j'ai pu faire. Et puis ces conversations avec quelques amis, ces conversations le soir, n'importe quand, le matin, où on aborde. J'ai rencontré dans ce livre un monsieur tout à fait étonnant, un capitaine qui a passé, je ne sais plus combien d'années, de 1979 à 1979 à 2003 à Tindouf, prisonnier de l'Algérie. Voilà. Oui. Je l'ai rencontré longuement. Je lui consacre deux ou trois pages. Extraordinaire. Il faut voir les conditions dans lesquelles il a été emprisonnés avec des tortures régulières, physiques et morales. Physiques et morales. Voilà. Le passage sur ce capitaine, dont ce soir j'ai les noms, mais moi les noms je les oublie toujours. Je ne sais jamais quels sont les noms des gens que je connais par ailleurs très bien. Eh bien, lui, c'est pareil, je voudrais rendre hommage à ce qu'il a été de courage. Et j'ajouterais que ça, c'est le Maroc aussi. Je ne suis pas sûr qu'il ait été reconnu suffisamment dans son courage, mais le Maroc, c'est un pays dur, un pays solide, un pays... Voilà, il a fait son devoir d'officier. Il a fait son devoir d'officier. Et aujourd'hui, je pense que c'est un héros qui mérite d'être plus mis en évidence. Alors, je sais qu'il va publier un livre, d'ailleurs, aux mêmes éditions que moi.
La Croisée des Chemins,
ce qui m'a permis, d'ailleurs, de le connaître. C'est par mon éditeur que je l'ai connu. J'avais envoyé mon texte et mon éditeur me dit, vous savez, vous devriez rencontrer le capitaine Untel. Ouais, je n'avais entendu parler, c'est tout. Mais vous verrez, il est formidable. Alors ça, si vous voulez, c'est le Maroc. Vous voyez, je ne suis pas là pour vous faire un exposé, un résumé ou un exposé technique sur mon livre. Voilà. Je n'ai pas voulu que mon livre soit technique, mon exposé ne le sera pas. Je ne vais pas le résumer. Parce que vous le lirez, et ce sera donc beaucoup mieux comme ça. Mais je voudrais vous lancer quelques flèches, ce que les Andalous appellent des saetas, c'est-à-dire quelque chose voilà, qui soit à la fois un peu romantique et en même temps exact. Il y a, si vous voulez, un certain nombre d'éléments fondamentaux pour comprendre le Sahara. Premièrement, le fait que le Maroc est un pays nord-sud. Et pas un pays est-ouest. Voilà. Et je vois que vous hochez la tête, en approuvant. Nord-sud, nord-sud, mais nord-sud, Europe, Afrique. Le roi 102, qui était lui aussi un jour d'échec, parce qu'il a fallu le faire, la marche verte. Et le monde entier a considéré qu'il abusait. Il était seul quand il a pris la décision. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont dit « il a raison ». Mais il l'a fait. Le roi 102 disait « nous avons la tête en Europe, le cœur à Rabat et les pieds en Afrique noire pour présenter son pays ». C'est exact. C'est exact. Et moi-même, si vous voulez, quand dans mon précédent livre sur le procès de que j'avais suivi, procès des assassins des jeunes gendarmes à Gdimizik au Sahara, à Laayoune. Dans ce procès, j'avais déjà abordé le sujet et j'avais déjà pu voir que ce Maroc était vertical, il n'était pas horizontal. Ça, c'est très important. Et s'il est comme ça, vertical, si vous voulez, ça explique que ce Sahara, qui est aujourd'hui au nord de la Mauritanie, n'est-ce pas, que ce Sahara ait été et soit intrinsèquement marocain, déjà, par cette verticalité. Mais la Mauritanie, pas de Mauritanien dans la salle, de toute façon, c'est trop tard maintenant.
Exactement, il ne faut pas oublier que c'est un État souverain.
C'est un État souverain. Mais la Mauritanie, je le dis,
ne le dites pas.
Elle a été créée en 1920 par les Français. Que voulaient faire les Français ? Les Français voulaient relier l'Algérie à Dakar, tout simplement. C'est tout. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est un État souverain, tout à fait remarquable, avec qui le Maroc entretient des relations apaisées et de la meilleure qualité. Il n'empêche que ce Sahara, qui est au nord de la Mauritanie, comment peut-il ne pas être marocain, puisque Mauritanie, ça vient de Maure, et Maroc ? On est dans le même monde, jusqu'à Dakar. On appelait ça autrefois le pays des Blancs et le pays des Noirs. Le pays des Blancs était au nord du pays des Noirs. C'est comme ça que les gens parlaient, jusqu'à il y a peu de temps. Et tous les textes anciens évoquent le pays des Blancs, le pays des Noirs. Et le Maroc était une sorte, non pas un royaume à l'ancienne, c'était un empire. Un empire dans, qui réunissait des peuples très proches, mais qui pouvaient avoir des souverainetés locales particulières, des pouvoirs locaux, comme tous les empires. Voilà. Donc, et d'ailleurs, quand Louis XIV écrit à Moulay Ismaïl, 1700, quand Napoléon Ier écrit au sultan de l'époque, il s'adresse à un empereur, chaque fois. Il ne se trompe pas, parce que cet empire, en fait, il allait jusqu'en 1830, quand on s'est installé en Algérie, on est allé à Alger. Eh bien, l'influence du Maroc sur le plan culturel, sur le plan religieux, allait jusqu'à Alger, allait jusqu'à Dakar, allait jusqu'au Niger. C'est ça l'empire marocain. C'est ça l'empire marocain. Il y avait donc des liens d'une autre nature que les liens juridiques des États modernes, avec des frontières modernes. D'ailleurs, les frontières dans cette partie, enfin en Afrique, comme en Asie d'ailleurs, mais surtout en Afrique, les frontières ne sont apparues qu'après 1930, quand on est allé en Algérie. Jusque-là, il n'y avait pas de frontières. Il y avait des zones d'influence, mais il n'y avait pas de frontières. Ce sont nous qui avons apporté les frontières, et ça, je le dis très nettement. Et d'ailleurs, les colons français en Algérie, ça c'est très intéressant, ont tenté de pousser la frontière algérienne vers le Maroc. Ils l'ont poussée, comme je dis, voilà. Ils sont allés vers l'ouest, il fallait étendre le territoire algérien. Et aujourd'hui, ce fameux Tindouf, cette fameuse ville de Tindouf, qui est aujourd'hui la capitale du Polisario, qui est en Algérie, n'est-ce pas ? Cette ville de Tindouf, elle était marocaine il n'y a pas encore si longtemps. C'était pas une ville algérienne. Ouais. Alors ceci, si vous voulez, ça explique que l'identité culturelle du Sahara, par la géographie, l'histoire et la géographie, le temps et l'espace. Voilà. Alors, vous avez bien fait de me reprendre, parce que ça vous permet de voir, de souligner, vous l'avez dit, que ce livre, je l'ai abordé par l'espace et le temps. Voilà. Par l'espace et le temps. Et je ne suis pas géographe. Je ne suis pas historien. Je ne suis pas grand-chose en connaissance pour traiter de ces sujets. Franchement, comment faire pour essayer de faire une synthèse sur un territoire aujourd'hui qui est contesté par un certain pays? Comment faire?
Enfin, vous êtes quand même une personne suffisamment intéressante à l'ONU, puisqu'on vient vous solliciter très régulièrement pour donner votre avis. Je tiens à le préciser.
Oui, mais enfin, il faut rester modeste. Et ça, c'est très... Voilà, j'avoue que quand j'ai décidé, après le premier livre où j'avais traité du Sahara à partir d'un procès pénal à Rabat, où j'avais été là pour titre des droits de l'homme, quand j'ai décidé de faire ce livre, c'est parce que j'avais conscience que, dans le premier, les droits de l'homme avaient occupé trop de place et pas assez la réalité des faits du Sahara. Alors, quand j'ai commencé à l'écrire, je vous assure que j'étais très ennuyé parce que je ne savais pas par quel bout prendre le sujet. Voilà. Alors, comme j'adore les faits, parce que j'ai toujours pensé à mes étudiants, combien de fois je leur ai dit sur le plan juridique, ce n'est pas la règle qui compte, ce sont les faits auxquels elle s'applique. Il faut savoir qu'une règle qui n'a pas d'impact sur les faits, ça n'a pas beaucoup de signification. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis bien longtemps, nous faisons des règles qui n'ont aucun impact sur la réalité des situations. Et ça, c'est un autre sujet. On a l'habitude, hein, en France. Le problème étant réglé, puisque la règle existe. Peu importe, après, son efficacité ou son évaluation, en France, on ne fait pas. Alors, donc, j'ai toujours eu ce souci de la réalité des faits, pour essayer de comprendre les idées qui se développent à partir de ces faits. Et je suis donc allé sur la réalité des faits du Sahara. J'ai voulu savoir ce que c'était. Et ça, comment le faire sans l'histoire? et sans la géographie. Donc sans l'espace et sans le temps. Le seul problème, c'est qu'il ne faudrait pas, il faut pas aborder le sujet, comme on le fait dans les facultés trop souvent, par discipline. Un professeur dans sa discipline enseigne telle question, dans une autre discipline on enseigne telle question, et on n'essaie pas de savoir s'il peut y avoir des convergences entre les deux pour essayer d'avoir une synthèse. Ça, c'est trop compliqué. Alors, je sais que ce que je dis est excessif, mais pas trop, cependant. Alors, il fallait que l'espace et le temps s'animent entre eux pour converger. Donc, il fallait faire une synthèse de cet espace et de ce temps. Quand on fait ce genre d'exercice, ça prend du temps. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire les choses. C'est pas du temps. Mais en même temps, c'est la seule condition de faire court. Parce que si vous mettez côte à côte des données que vous avez sorties des bouquins et puis des témoignages et des choses comme ça que vous avez transcrits, si vous mettez ça côte à côte, d'une part, quand les lecteurs auront terminé, ils se diront, mais voyons, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Parce que c'est très intéressant, il y a beaucoup de données, tout ça c'est riche, mais qu'est-ce que ça veut dire ? La synthèse, c'est déjà l'aide, c'est l'explication. Alors, il apparaît que cet espace et ce temps ont créé la matière même du Sahara marocain. Voilà. Et alors, quand on a l'espace et le temps, que faut-il faire ? Vous m'avez dit que vous me poseriez une question sur les quatre
points cardinaux
que j'ai choisis.
Que vous avez choisis. Alors, je vous pose la question. Pourquoi ? Pouvez-vous nous expliquer ce que vous appelez les quatre points cardinaux,
qui constituent la seconde partie de ce livre. Quand on ne sait pas comment avancer, il faut se donner des repères.
Mais j'ai les repères.
Je vous assure que... Oui, mais moi, je ne savais pas comment avancer. Je me suis dit, comment je vais ? Il faut une boussole, oui. Mais alors, avec les quatre points cardinaux, je les avais. Voilà. Il me fallait une boussole. Il fallait que j'aie le nord, il fallait que j'aie l'ouest, il fallait que j'aie le sud, il fallait que j'aie l'est. Voilà. Et donc, plutôt que de regarder le Sahara de l'intérieur, j'ai mis mes lunettes et mes jumelles aux quatre points cardinaux. Et j'ai regardé depuis le nord, c'est-à-dire du Maroc et de l'Europe. J'ai regardé par l'ouest. Alors vous allez me dire, mais l'ouest, c'est l'Atlantique. Oui, mais quelle richesse, l'Ouest, parce que ce sont les Portugais, ce sont les Espagnols, voilà. Eh oui, toute la côte est portugaise et espagnole, jusqu'à Dakar. Senghor, c'est bien un nom portugais. Eh oui, et donc, quelle richesse, l'Ouest, fantastique. Ça m'a permis de voir ce Sahara d'une manière exceptionnelle, par la mer, voilà. Le Sud, eh bien le Sud, c'est l'Afrique noire, c'est la Mauritanie. C'est ça. Toute l'Afrique noire qui est là, et avec, dans ses relations culturelles. Savez-vous que l'influence religieuse du roi s'exerce aujourd'hui au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Niger ?
Oui.
Il faut aller le dire, tout ça.
C'est une grande démarche.
Et si aujourd'hui, nous avons une certaine maîtrise de l'islam en Afrique de l'Ouest, c'est dû à qui ? Sinon au Maroc, et à son rite calme et apaisé, qui s'appelle le rite malikite. J'ai eu la chance. Dans ce livre, je remercie quatre Marocains. Et parmi eux, Ahmed Abadi, le secrétaire général des oulémas, qui est venu à Bordeaux, qu'on a reçu, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Je lui dis, mon cher Ahmed, peux-tu me définir en quelques mots le rite malikite ? Je lui ai dit ça il y a trois ans à peu près. Il me répond, le texte dans le contexte. C'est pas beau ? C'est tout. Vous avez cet islam apaisé, calme, voilà. C'est un islam tout à fait intéressant de ce point de vue. La preuve, c'est qu'il n'y a rien ne se passe. Rien ne se passe. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, parce qu'on ne tape à la porte. Oui, sauf que le travail qui est fait aujourd'hui par le Maroc dans toute l'Afrique noire, francophone, par le fait que cette Afrique noire francophone est soumise historiquement, par le temps, par le fait de l'allégeance, mais à cette influence du rite malikite, cela explique sûrement que la paix soit plus grande dans ces territoires qu'ailleurs.
Hubert, j'ai une petite question pour vous, si vous le permettez. Justement, on parlait de votre rigueur et de votre... c'est à ce titre-là que vous étiez encore en mois d'octobre à New York, où vous êtes régulièrement appelé. Et nous aimerions savoir, et j'imagine tout le monde ici, l'avenir de ce Sahara marocain. Quand est-ce que nous allons en sortir et quelle est aujourd'hui la position de l'ONU? Est-ce qu'elle joue le statu quo? Est-ce que vous pensez que c'est là une stratégie qu'elle applique? Qu'en est-il de la France, des USA par rapport à cette position? Qu'en avez-vous tiré de cette réunion new-yorkaise?
Alors, je vais vous répondre, mais je ne peux pas être insensible à la qualité des propos de mon ami le vice-consul. Parce que la lecture que vous avez faite est pour moi un compliment que je vais conserver longtemps au fond de mon cœur, mon cher ami. Merci. Une fois qu'on a dit cela, votre question est fondamentale en effet. 45 ans, est-ce que ça peut durer un peu plus? En France, le temps qui passe...
Oui, un demi-siècle de conflit.
On ne se rend pas compte, mais un demi-siècle de conflit, on ne se rend pas compte. Voilà. Et l'investissement du Maroc est très lourd, à tel point qu'il faut en sortir. Nous connaissons actuellement une situation dont on dit qu'il faut en sortir, parce qu'elle nous coûte cher aussi, mais on n'a pas le sentiment qu'on ait toujours compris que quand quelque chose coûte cher, d'autres investissements sont en cause. Et au Maroc, c'est le cas. Car le nord du Maroc, certaines autres régions ont beaucoup moins été avantagées par les investissements publics parce que c'était la cause nationale. Il fallait trouver véritablement... Il fallait trouver une réponse à la contestation. Il fallait faire de ce Sahara quelque chose d'exceptionnel. Et c'est exceptionnel. Mais il suffit d'y aller. Il suffit d'y aller. C'est vraiment, quand j'évoque la Californie, que j'évoquais tout à l'heure, croyez-le, ce n'est pas un mot qui est un mot abusif.
Et le tourisme...
Alors, il faut faire attention. Il faudra faire très attention. Parce que si c'est pour faire Marrakech, ça, c'est pas évident. Non. Il faudra faire très, très attention. Le tourisme est à Marrakech. Qu'il y reste? Il peut y avoir un autre tourisme. On est sur des territoires excessivement vulnérables. On est sur cette côte. Il faut y aller. Et je vous invite à y aller. Une fois qu'on dit ça, vous me posez la question de l'avenir et de la position de l'ONU. C'est bien ça. Alors, vous m'avez même demandé, je peux le dire, puisque j'y ai répondu aussi vite, avant-hier, vous m'avez demandé de vous faire un article pour le Maroc diplomatique.
Oui, qui paraîtra dans le Maroc diplomatique.
Alors, il est fait.
Merci.
Vous le savez, il est fait. Je l'ai écrit, en effet. J'ai passé. J'aurais pas dû le faire si vite, parce que j'ai des dossiers qui sont en suspens. Mais je l'ai écrit. Voilà.
Et je vous en remercie.
Et alors, il est intitulé « La reconnaissance juridique ». Parce que la reconnaissance est liée. Mon livre, c'est une reconnaissance. Mais elle n'est pas juridique. La reconnaissance juridique inéluctable, c'est-à-dire irrésistible, contre laquelle on ne pourra pas aller. Voilà. La question est la suivante. Quand? Voilà. Quand? Pour traiter ce sujet, j'évoque une question qui pourra peut-être vous paraître bien théorique, bien abstraite, mais que je ne peux pas résister à vous confier. Parce que c'est ce que j'observe dans notre société de l'instant dominé par une certaine sociologie ou une certaine philosophie avec les nouveaux philosophes, les nouveaux sociologues, tous ces gens qu'on voit à la télévision, qui vous expliquent tout à partir de leurs idées et qui vous expliquent ce qu'est la société parce qu'ils ont l'idée que c'est ça. Ce qui veut dire qu'ils font exactement le contraire de ce que j'ai essayé de faire, d'aller voir la matière des faits et essayer de voir ce que c'est, tout simplement sans idée, sans a priori, ce que doit faire tout chercheur. Tout chercheur, toute recherche scientifique doit être fondée là-dessus. Vous parliez de rigueur, c'est la rigueur scientifique, tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé de rester scientifique dans l'écriture, c'est un autre sujet. Mais la méthode, c'est la méthode du fait. Alors, j'ai fait un texte en trois parties, et je vous donne ces trois parties. Tout d'abord, le combat de l'idée contre le fait. En 1975, il y avait une idée. Ce Maroc ne pouvait pas être marocain. Ce Sahara ne pouvait pas être marocain. L'Algérie l'a soutenu. L'Espagne aussi, parce que l'Espagne voulait avoir un État croupion dont elle pourrait continuer à tirer des profits. Mais c'était aussi l'Algérie. Et puis tout le tiers-mondisme, le communisme, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, le bloc de l'Est. Comment peut-on abandonner ce Sahara, un royaume, un roi ? L'horreur absolue. Voilà. Non. Alors, ouais. C'était l'idée tiers-mondiste. Alors, pendant, jusqu'à ces dernières années, que voit-on ? On voit cette idée qui s'impose aux Nations Unies, on discute, on dit, voyons, il faut un référendum. Alors, que disent les gens du Polisario et l'Algérie ? Pour qu'il y ait un référendum, il faut que ne puissent voter que les gens qui étaient là en 1975. Hein ? Oui, mais alors, que les gens qui étaient là en 1975, ça veut dire que personne n'est sorti et personne n'est entré. Alors, dans mon petit livre, je connais un pays qui, au monde aujourd'hui, a cette caractéristique, c'est la Corée du Nord. Si c'est ça que vous... Non, mais on ne l'a pas assez dit. Ça, je l'ai dit à New York. Voilà, il faut le dire. Parce que... Dans le temple de la démocratie internationale, entendre des âneries de ce type, c'est quand même assez exceptionnel. Eh bien, on le dit. J'ai entendu les tenants de l'Algérie et du Polisario le dire. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. Le combat des idées contre le fait. Le fait n'existe pas puisque l'idée est contraire. Deuxième chose, on a eu depuis peu de temps, c'est beaucoup plus récent, les faits qui sont apparus. Et moi, j'ai dit d'ailleurs aux mes amis marocains, vous le savez sûrement, et puis, écoutez, il faut arrêter d'aller à l'ONU pour essayer de dire que l'idée marocaine est supérieure à l'idée que ce n'est pas le Maroc. Vous êtes sur le terrain de l'adversaire, il ne faut jamais être sur le terrain de l'adversaire dans une bonne stratégie, n'est-ce pas ? Pensez à Napoléon, pensez à El Mansour, je vous ai dit d'ailleurs, hein, votre grand capitaine. Voilà. Bon. Mais pensez à Bonaparte. Quand Bonaparte allait sur le terrain, eh ben, il avait une longueur d'avance et il choisissait lui-même son terrain. Il n'allait pas sur le terrain de l'adversaire. Et quand il a perdu à Waterloo, c'est parce qu'il était sur le terrain de l'adversaire. Il n'a pas su choisir. Il n'avait pas les moyens de choisir. Voilà. Donc on choisit son terrain. On y amène l'adversaire et on discute. Vous allez sur le terrain de l'adversaire qui ne fait que du droit, qui ne fait que du droit de 1975, du droit de l'ONU, fondé sur les idées que comme quoi ce Sahara et ne peut pas être marocain, ne peut absolument pas être marocain parce que, voilà, parce que vous êtes en royaume, parce que vous êtes dans le bloc occidental, voilà, parce qu'on n'est pas allé plus loin. À aucun moment, les opposants à la marocanité n'ont essayé de dire « voilà ». Pourquoi, dans les faits, ce territoire n'est pas marocain ? Sous-entendu, il fallait dire, il n'a pas culturellement les caractères du Maroc, il n'a pas subi d'influence, il fallait dire tout cela. Il est très différent, il ressemble beaucoup plus au peuplade de l'Abyssinie qu'au peuplade du Maroc. Voilà, il fallait le dire. Ils ne l'ont jamais dit. On est resté sur le terrain des idées et du droit, parce que le droit, ce n'est que la superstructure de l'idée. Voilà. Alors, vous voyez, Quand on a commencé à aborder le sujet à partir des faits, là, le Maroc a commencé à reprendre la main. Moi, j'aurais dit, il ne faut surtout pas aller à New York pour brandir les idées. Il faut dire la concrétude des faits, comme a dit une autre. Voilà. La concrétude des faits. Il faut être très, très concret. Voilà. Et la concrétude des faits, c'est aussi ceci. C'est que à Tindouf, nous avons des bandits. Des bandits. Il suffit de regarder sur Internet. Des criminels. Des dictatures. Il n'y a pas de... Il n'y a pas, mais on parle au nom des droits de l'homme. Je suis l'avocat d'un dirigeant du Polisario et de sa famille qui s'est insurgé contre un certain nombre d'États de faits de ce type, Ahmed Ed Raïl, numéro 2 du Polisario, qui a été arrêté en Algérie il y a 10 ans. Il y aura 11 ans en janvier prochain. C'était le 9 janvier. Il y a eu 11 ans, le 9 janvier dernier, avant-hier, voilà, que Ahmed Ed Raïl a été arrêté à Alger parce qu'il il dénonçait un certain nombre de pratiques mafieuses et toutes sortes de pratiques. Voilà, on vole les aides, on s'enrichit. Voilà. Parce que tout ça, c'est fait. C'est clair, c'est net. Ce sont des faits qui ne peuvent pas être contestés. Et alors, on a commencé à reprendre la main avec ces faits. Et puis surtout, le fait majeur, c'est ce que vous avez lu tout à l'heure, Valérie, qu'il y a une démocratie, que les Sahraouis sont élus, votent, qu'ils sont chefs d'entreprise, qu'ils... voilà.
Mais ça, c'est... Pardonnez-moi, mais c'est tout à fait... J'aimerais bien qu'on en parle. Parce que, justement, nous en parlions, le plan d'autonomie proposé par le Maroc passe notamment dans l'exercice de cette démocratie.
Mais voilà.
J'aimerais que vous parliez un peu plus
longtemps. Eh bien, ça veut dire qu'il y a... on peut dire qu'il y a 10 points de plus de participation au Sahara que dans le reste du Maroc. C'est beaucoup, hein.
Aux élections.
Aux élections.
Oui.
De participation à toutes les élections locales, nationales et tout cela. Hein. Et il y a un certain nombre d'authentiques Sahraouis. Mais on ne peut pas avoir que des Sahraouis au Sahara, comme si on n'avait que des Aquitains en Aquitaine. Bon, non, mais enfin, il faut voir les choses dans un monde dit libre. Voilà, il faut voir les choses normalement. Mais les Sahraouis, c'est-à-dire les Aquitains, voilà, les gens locaux, les autochtones, comme on disait autrefois dans les colonies, bon, les autochtones, bon, ces gens-là, ils exercent une influence déterminante sur le développement. D'une part, ils sont très cultivés. Ah, ça, c'est la chose qui peut étonner. Les gens du désert sont très cultivés. Ah, ça, c'est quelque chose que tous les grands spécialistes du désert ont pu souligner. Je ne suis pas le premier, mais ça a toujours été dit. Voilà. Et pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a une grande spiritualité. Une grande spiritualité, ce n'est pas le hasard si... Le grand Charles de Foucault est allé s'installer là-bas. Voilà. Il y trouvait quelque chose. Voilà. Alors, ce sont des gens intelligents, ce sont des gens cultivés, ce sont des gens, en même temps, qui font des études importantes et qui réussissent. Alors, on a des témoignages. C'est pas la peine, là.
Même au niveau des femmes.
C'est pas même au niveau des femmes. La femme joue un rôle
bien plus important.
Au désert, dans le désert, plus important que partout. Pourquoi ? Parce que l'homme n'est jamais là. Il était sur son dromadaire, sur son chameau, il était jamais là. Elle a exercé un rôle économique déterminant. Voilà. Et alors, en même temps, quand on va là-bas, on voit la tenue des femmes, leur liberté... Vous allez à Dalioun ou à Darla à 1h du matin, dans la nuit, vous voyez ces femmes qui se promènent, qui font le paseo espagnol, qui sont là avec leur voile très léger, puisqu'il fait chaud, voilà, un voile très léger, très clair, très coloré, très transparent même, il faut dire les choses, très beau. des beaux tissus, voilà, et qui est là la nuit, qui se promène. Vous voyez combien on est loin de l'idée de la femme que nous montrent les images en Iran aujourd'hui, ou encore en Arabie Saoudite, pour être équitable sur les deux religions, chiites et sunnites. Mais non, mais voilà, ici nous sommes dans un monde totalement différent, la femme joue un rôle fondamental, essentiel, et ce sont ces faits, vous voyez Valérie, qui permettent de dire aujourd'hui que ça n'est fini de cette situation de contestation. Je pense que le combat a cessé par ailleurs, c'est ce que je dis dans mon livre, « Faute de combattants » pour citer Corneille, le combat c'est ça, faute de combattants, le Polisario n'existe plus, sinon dans son congrès, il a fait un congrès, mais j'ai lu dans la presse algérienne elle-même qu'il n'avait pas réussi à avoir grand monde à ce congrès, c'est la presse algérienne, si la presse algérienne le dit, c'est que ça doit être vrai. Deuxièmement, le Polisario est divisé. Je vous ai dit, ce dirigeant qui a été arrêté cet été, il faut savoir, puisque je suis l'avocat de la famille a fait un sit-in à Tindouf, il y a eu des sit-in à Madrid, il y a eu des manifestations, bien entendu, au Sahara marocain, puisque ses frères sont de la Youne et de Smara, qui sont mes clients, si l'on peut dire. Donc, il y a une division. Troisièmement, enfin, il n'y a plus d'argent parce que les États qui finançaient ne sont plus au rendez-vous. L'Algérie, vous le savez, a une situation à affronter excessivement difficile. Il y a un certain nombre de gens en Algérie parmi les dirigeants qui ont contesté la position de l'Algérie vis-à-vis du Maroc et vis-à-vis du Polisario. Ça aussi, c'est dit. C'est des choses qui sont établies. Cuba n'est plus au rendez-vous non plus. Le fils d'un des frères... non, ce n'est pas le fils d'un des frères. Le neveu d'un des frères qui m'a confié le dossier à Ahmed El-Khalil vit aujourd'hui à Mont-de-Marsan. Il a passé toute sa jeunesse à Cuba. Il parle espagnol, il ne parle pas français, il vient d'arriver. Il est architecte, il a une femme qui est docteur en droit, vous voyez, tout à fait des gens, tout à fait élevés. Mais il était à Cuba et il dit la pire chose aujourd'hui de Cuba. Il dit, un peu comme Saint Paul à Damas, il a découvert autre chose. Voilà, il se rend compte qu'il a été abusé, que ça c'est très clair. Et voilà, c'est des gens que vous pouvez voir. Qui était Polisario encore il n'y a pas si longtemps. Donc il se divise, il n'y a plus d'argent. Le Venezuela donne plus d'argent. Les pays qui, à l'ONU, défendent la thèse de l'Algérie et du Polisario se réduisent comme peau de chagrin. Je n'ose même plus, je le dis dans mon livre, je ne cite plus parce que ce n'est pas la peine de le faire. Ils étaient tant à telle période, ils sont 20 maintenant, demain combien seront-ils? Donc ce n'est plus alors, la peine.
Qu'est-ce qui bloque, Hubert? Est-ce que c'est... Vous avez parlé du petit droit.
Alors, voilà.
C'est le petit droit qui bloque?
Alors voilà, la question est là. Si tout ce que je dis... Non, pourquoi tout ce que je dis... Ne conduit pas à la transposition juridique du fait. Voilà, c'est ça la question. Ce fait, ces faits que je vous donne, et très honnêtement, qui sont reconnus aujourd'hui dans le monde, par les États-Unis, par l'ONU elle-même.
La France aussi.
Par l'UE. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a les contentieux. Alors, il y a deux types de contentieux. Il y a le contentieux au plan... onusien sur l'autodétermination, voilà, qui est toujours à l'ordre du jour. Et il y a les contentieux commerciaux qui sont portés devant toutes les juridictions, et notamment devant la Cour de justice européenne. Voilà. Et dans mon livre, j'aborde le sujet des contentieux commerciaux. Alors, chaque fois, évidemment, sur ces contentieux commerciaux, le Polisario gagne. Hein. Enfin, il ne perd pas, en tout cas. Et le Maroc est en situation difficile. Et pourquoi ? Bien parce que les règles qui sont sollicitées sont des règles qui viennent de 1975. Si vous voulez, d'un pays qui n'est pas qui n'est pas ni indépendant ni autonome, un pays qui est aujourd'hui administré par le Maroc, mais le Maroc n'a pas de mandat particulier, donc on est dans une situation juridique extrêmement compliquée. Que font les tribunaux quand ils appliquent, quand ils sont saisis par le Polisario ? Que font-ils ? Ils appliquent les règles du moment, c'est-à-dire les règles 75, post-75. Comment voulez-vous qu'ils fassent autre chose ? On ne lui dit pas, on n'invoque pas dans ces contentieux l'allégeance évidente des peuplades du Sahara avec le royaume du Maroc. On n'invoque pas les liens culturels et cultuels. On n'invoque pas tout cela. On invoque le droit de l'ONU de 1975. Je fais court, hein. Je fais très court volontairement. Voilà. Mais on invoque ce droit sur la base de ces règles-là, de ces petites règles modernes, nouvelles. Que voulez-vous ? La réponse est toujours la même. Ce qui veut dire que nous avons cette situation excessivement caractéristique. Pour ne prendre que l'Europe. L'Europe fait des traités maintenant, fait des traités commerciaux avec le Maroc. Et dans ces traités commerciaux, vous avez bien entendu toute l'économie saharienne qui est dedans. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Comme si nous faisions des traités commerciaux France et États-Unis, où l'Aquitaine ne serait pas. Imaginons. Non, il y a donc l'économie saharienne. Bon, ça, c'est l'aspect traité. Ça, c'est l'Union européenne qui fait ces traités. Traité de pêche, traité d'exportation, traité d'importation et tout ça. Et en même temps, le Polisario saisit la Cour de justice de cette même Union européenne et fait un procès en disant cet accord n'est pas légitime et l'Union européenne est condamnée, dans le fond, par sa Cour de justice. Alors ça ne peut pas durer. C'est totalement. Nous sommes en absurdie. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas moi qui le dis. Je connais, j'ai lu un certain nombre d'études juridiques sur le sujet, dont une de mon excellent ami Éric Agostini, qui est professeur à Bordeaux, avec qui j'ai travaillé sur le sujet et qui a fait un article il n'y a pas longtemps en disant c'est absurde. Voilà. Nous sommes dans l'absurdie la plus totale. Et s'agissant alors de la question que vous posez, je dirais, voilà, quel est le vecteur qui va permettre de se transformer et de faire en sorte qu'on ait une transcription juridique du fait,
adapté, oui.
C'est-à-dire la reconnaissance, erga omnes, de cette marocanité. Eh bien, ce vecteur, il pourrait être l'ONU. Quand on voit les positions... Alors, ce sont des positions de petits marquis. Hein. On fait du piano doucement, une petite musique de nuit, on dit des choses. Alors, les diplomates observent qu'il y a eu tel mot qui a été dit qui va dans le sens du Maroc. Et c'est vrai que progressivement, on voit bien que le Maroc est reconnu par les autorités onusiennes de plus en plus dans sa légitimité, mais on ne va pas plus loin. Voilà.
Donc vous parlez de l'ONU
Eh bien, écoutez, moi, je fais pas de prédiction. Je suis bien incapable.
Pardonnez-moi, vous m'avez fait une prédiction hier. Vous avez dit que l'ONU ne peut pas être le vecteur de changement.
Oui. Je crois que le non, mais je fais pas de prédiction, j'observe des tendances. J'observe des tendances, des évolutions. Je ne pense pas que l'ONU sera en elle-même, en tant qu'institution, le vecteur déterminant du changement, parce que je trouve que l'ONU, je renvoie à ce que disait De Gaulle, c'est une énorme chose, mais qui n'a pas beaucoup de capacité de décision. Voilà. Elle n'a pas beaucoup de capacité. En revanche, ce que je crois, c'est que nous allons avoir une reconnaissance juridique par les États. pas par l'institution onusienne en elle-même, mais par les États. Et cela a commencé.
Chacun des États, vous voulez dire, oui.
C'est-à-dire une consécration bilatérale. Voilà. Ce n'est pas l'institution onusienne, je ne la vois pas, capable de dire un jour, on met à l'ordre du jour d'une assemblée générale, la marocanité intrinsèque et définitive du Sahara marocain, je ne vois pas ça. C'est trop lourd. Et puis, il faut une capacité de décision. Voilà. Vous avez vu, Trump, il a eu une capacité de décision. Hein, quand il a, voilà. Bon, eh bien, il faut une capacité de décision. Il y a des pays qui ont une capacité de décision. En France, le président a une capacité de décision. En Allemagne, la chancelière n'a pas une capacité de décision de se même décider, parce que toutes ces décisions doivent être préparées par l'Assemblée et tout ça. Voilà, il y a des institutions qui ont plus de capacité de décision que d'autres. Et je crois beaucoup plus au bilatéral. Alors, vous allez dire que maintenant, on va reprendre et puis il faut savoir s'arrêter. Mais je voudrais vous faire sourire. Les choses ont commencé à Bazas. Ouais, à Bazas. Au mois de septembre, a été engagé dans le cadre de la fondation que vous m'avez dit, vous avez présenté tout à l'heure, une démarche de jumelage entre la ville de Bazas et la ville de Smara. Smara, c'est à côté de la Youne. Smara est une ville qui est connue pour ses chameaux et Bazas pour ses bœufs. Nous avons donc, en souriant, quand nous étions à Smara, dit au maire et au gouverneur de Smara, monsieur le maire, monsieur le gouverneur, ce serait bien si on pouvait envisager des relations plus étroites avec une petite ville près de Bordeaux qui s'appelle Bazas. Et le maire dit, oh, ce serait formidable, on ferait le jumelage du bœuf et du chameau. Voilà. Eh bien, oui, mais...
Et ça marche.
Quand j'en ai parlé au maire de Bazas, il s'est dit, là, Seyant, il disjoncte. Ouais. On m'a souvent dit que je disjonctais. Mais bon, là, j'étais bien ennuyé parce que je m'étais engagé vis-à-vis de Smara et je ne voulais pas que le maire nous dise non. Alors, il a dit oui. Et nous avons été reçus en grande pompe par Bazas avec une délégation de 10 personnes de Smara. Des Sahraouis, nous avons vu c'est quoi un Sahraoui, on l'a vu à Bordeaux, ils sont spéciaux hein, quand même, hein. Il faut les recevoir, parce qu'ils vivent quand même.
Parce qu'eux aussi savent recevoir.
Ah oui, mais ils savent recevoir, mais ce sont des gens du désert quand même, hein. Donc c'était assez compliqué du point de vue de l'organisation du voyage, mais n'empêche qu'à Bazas, ça a été remarquable. Il y a eu une signature des engagements réciproques, avec la presse, nous avons eu tout ça. Eh bien, Bazas va aller demain, au mois d'avril, à Smara, et on va confirmer tout ça, voilà. Mais vous savez que c'est une procédure assez longue. Pourquoi je vous dis cela ? Un jumelage, c'est quand même autorisé, il ne faut pas l'oublier, par le pouvoir politique, par le préfet, par le ministre de l'Intérieur. Eh oui. Ce qui veut dire que la procédure engagée ne dépend pas simplement du maire de Bazas, ni du maire de Smara. C'est aujourd'hui, le dossier est au ministère de l'Intérieur. Et à partir du moment où le ministère de l'Intérieur donne son accord, je ne vois pas comment le ministère de l'Intérieur français pourrait ne pas donner son accord. D'ailleurs, il n'a pas fait part de son désaccord à ce jour. Nous avons engagé une démarche diplomatique de consécration de la marocanité du truc. Alors, vous allez dire, oui, c'est Seyant, il ramène toujours tout à lui, voilà. Hein. Mais non, maintenant, il y a trois pays d'Afrique qui viennent d'installer un consulat dans le territoire saharien du Maroc. Deux consulats à La Youne, un consulat à Darla. Le consulat d'Arla, c'est le dernier. C'est celui de la Gambie. Vous savez, le petit pays de la Gambie, n'est-ce pas ? Eh bien, il s'est installé à Darla. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais, surtout de Gambiens, donc, qui sont à la frontière, parce qu'il y a de l'emploi, il y a du travail, ils viennent travailler, ce sont des immigrés. Le problème du Maroc, c'est qu'il a... Il a ses propres immigrés, et il a de moins en moins d'ailleurs de Marocains qui quittent le Maroc, il faut quand même le dire aussi, parce qu'il y a de l'emploi. Et puis il y a les Comores, la République islamique des Comores, qui a installé un consulat général à La Youne. Et il y a enfin le troisième pays qui... Ah voilà, ça y est, oui, c'est très récent, la Gambie. Et la Côte d'Ivoire, pardon, c'est pas le moindre. Et la Côte d'Ivoire. Et alors, ce qu'il y a de très remarquable, c'est que le consulat d'Arla est un consulat honoraire. Parce que la Gambie n'a pas beaucoup d'argent, tout ça. Bon, ça coûte moins cher qu'une instance diplomatique complète. Mais ils ont choisi un monsieur tout à fait exceptionnel que nous avons rencontré dans nos voyages, qui est un petit-fils du grand résistant aux Espagnols en 1900, avant Lyoté, qui s'appelait la famille Malaynin. Et ils ont choisi un chef d'entreprise de la famille Malaynin. Et c'est ça qui me paraît fondamental, parce qu'ils ont choisi quelqu'un qui est véritablement l'illustration même de cette marocanité du territoire, puisqu'il est d'une des familles les plus représentatives de cette identité, par sa résistance aux Espagnols, d'une part, et par son allégeance au Maroc, d'autre part. Voilà, mes chers amis.
Et je vous propose, Hubert, de parce que je vous propose que nous laissions le dernier mot à Monsieur le Consul et laisser la parole. Il nous reste un quart d'heure, donc voilà. Le dernier mot pour notre consul, et puis à vous.
Merci beaucoup, cher Hubert. Merci, Valérie. Je crois que en matière de tout ce qu'on peut dire sur la question du Sahara marocain, Hubert a magnifiquement expliqué les choses. Je vais juste ajouter une petite réflexion par rapport à ça. C'est que il y a des questions qu'on a du mal à transposer facilement dans un discours ou dans un slogan ou dans une phrase. Il y a des questions qui nécessitent un effort intellectuel pour pouvoir les comprendre. Parce que la nature de la question elle-même est compliquée. Et malheureusement, cet exercice assez difficile, surtout au début du conflit, n'a pas été fait par tout le monde. Et je crois que maintenant, les choses sont de plus en plus claires aux yeux de la communauté internationale, et on commence à comprendre mieux la question. Et cet ouvrage est un autre outil. Un outil, comme j'ai dit auparavant, unique pour mieux expliquer la question. Merci de votre attention, merci de votre présence. Merci, mes chers amis. Des questions ?